Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors ce soir dans le dossier du jour, on va essayer de casser les clichés qu'on a entendus en tout cas pendant des années dans les médias traditionnels et puis un peu partout, sur les jeunes arabes. Alors on avait pendant des années l'idée, ou en tout cas l'image, soit d'un côté des barbus ou des jeunes femmes kamikazes qui allaient se faire sauter, que ce soit en Palestine ou en Algérie. Et puis sinon, il y avait aussi l'image des Aragas qui partaient vaille que vaille pour fuir le Maghreb et fuir leur pays. Et puis, on s'en souvient tous, c'était en Tunisie, il y a un jeune qui est Mohamed Bouaziza, qui s'est suicidé et qui, par ce geste-là, a fait changer un peu l'image qu'on avait et qu'on a eue dans les médias des jeunes et de cette jeunesse-là avec le début des printemps arabes. Et là, on est passé des barbus à l'image du jeune Facebook, téléphone portable, Twitter et autres YouTube. En tout cas, c'est ce dont nous allons parler ce soir avec Laurent Bonnefoy, qui est politiste et qui est en plateau, qui vient de coordonner avec Myriam Catus un bouquin qui s'appelle « Jeunesse arabe, du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique » et s'est publié aux éditions La Découverte.
Blast, 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 blast Voilà, vous êtes bien dans Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. À l'instant, on vient d'entendre Oba Oba Spirit, qui est un groupe de rock marocain. Et parce que on reçoit, parce que c'est bien déjà, et parce que aussi on reçoit Laurent Bonnefoy, qui a co-dirigé avec Myriam Katus l'ouvrage intitulé Jeunesses arabes, il faut faire la liaison pour entendre le pluriel, du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique. C'est publié à La Découverte et c'est ce dont on parle ce soir dans Les Oreilles Loin du Front.
Ah oui, alors bonsoir Laurent. Alors déjà, peut-être pour commencer, toi tu es politiste. Au départ, avant de co-diriger cet ouvrage, tu as travaillé sur le Yémen, je crois.
Exactement, ouais. Moi je travaille depuis une petite dizaine d'années, ou une bonne dizaine d'années maintenant, le temps passe, sur le Yémen essentiellement, et particulièrement sur les mouvements islamistes. Et donc il y avait un rapport assez fort avec la jeunesse, parce que je travaillais sur un mouvement plutôt jeune, plutôt récent, qui concernait avant tout les jeunes générations, qui était le salafisme, que j'avais étudié dans un cadre universitaire auprès de jeunes étudiants.
Et alors là, ce livre est très large, puisqu'il tente d'une certaine façon... Un espèce de portrait croisé de jeunes arabes, mais comment vous avez eu cette idée de faire ce portrait croisé? Parce que c'est assez étonnant quand même. Parce que là, quand on parle de jeunes arabes, c'est très large ce bouquin.
Alors en effet, c'est très large. On est parti d'un constat que tu as pu souligner dès le départ. C'est celui de basculement dans des clichés. On avait un cliché qui, bon, grosso modo, on pourrait dire, date des années 90, mais a été réellement prégnant à compter de septembre 2001, qui était celui d'une jeunesse arabe perçue sous l'angle de la menace à la sécurité avant tout, mais également la menace migratoire, où on avait l'impression que finalement les jeunes des pays arabes, et souvent la jeunesse arabe au singulier, étaient une menace pour les sociétés qu'on va qualifier d'occidentales. Et puis dans le même temps, depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, donc depuis 2011, on avait un nouveau cliché qui avait émergé, alors qui était un cliché plus positif, mais qui demeurait un cliché, qui était celui de dire que la jeunesse arabe, encore une fois au singulier, avait une capacité particulière à finalement corriger ce que les prédécesseurs n'avaient pas fait. Alors comme le dit le préfacier de notre ouvrage, François Burga, d'une certaine manière, certes avec le père on n'avait pas réussi à s'entendre, mais avec le fils ça irait mieux, et avec la fille c'était encore mieux. Donc les jeunes générations permettraient de corriger les questions de sexisme, permettraient de corriger... et donc on avait construit une catégorie de jeunesse qui serait forcément... libérale au sens politique du terme, plus ouverte, tolérante, laïque aussi. Et donc on construisait une espèce d'image qui était un cliché, plus positif, mais malgré tout c'était un cliché. Et donc il s'agissait d'essayer de comprendre de façon plus nuancée cette pluralité, en tenant compte bien évidemment des diversités. On traite de 18 pays dans l'ouvrage, ce qui est quand même assez considérable, et d'entrer aussi par quelque chose qui est plus, peut-être plus original, mais qui permet aussi d'avoir tout de suite un certain nombre d'accroches intéressantes. Les loisirs. Donc plutôt que de travailler sur l'engagement directement ou sur les conditions socio-économiques, l'entrée par les loisirs, nous semblait pertinente.
Et une chose importante dans le titre même du bouquin, c'est le côté pluriel, c'est des jeunesses, donc ça sera des jeunesses et des loisirs et des pays.
Oui, tout à fait. Enfin, nous on a réellement insisté sur ce besoin, et c'est bien de faire la liaison, ces jeunesses arabes, parce qu'il y a non seulement une pluralité des conditions socio-économiques, hein, quand on est riche, on va dire, ou aisé, on n'a pas les mêmes types de loisirs que quand on vit dans un camp de réfugiés, et puis quand on est au Qatar, on n'a pas les mêmes loisirs qu'au Sahara occidental. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devait mettre en avant. Et en insistant sur cette diversité, on en vient aussi à témoigner d'une forme de richesse, d'une inventivité. Alors il ne s'agit pas de dire, ah bah oui, de tomber dans le cliché que j'ai essayé de déconstruire, le cliché positif qu'on peut appeler le cliché du jeunisme, et de dire d'être absolument toujours enthousiasmé par ce qui se passe. Et même encore au-delà de ça, on avait vocation à ne pas développer un discours normatif. Tous les travaux qu'on livre là, donc à travers les 38 chapitres, 38 pratiques, elles n'ont pas toutes vocation à générer l'assentiment, la sympathie. Il y a des loisirs qu'on souhaiterait voir développer, parce que c'est des loisirs, enfin, des voix dominants dans ces sociétés-là, qui seront des loisirs créatifs, artistiques, de musique qu'on aime, tournés vers la diversité, etc. Et puis, bon, il y a des loisirs qui existent et qu'on va considérer de façon plus négative, de façon intuitive. Mais on estimait, en tant que co-directeur de cet ouvrage-là, Myriam et moi, que c'était pas à nous de juger d'une certaine manière, et c'était pas aux auteurs de donner une appréciation clé en main. Et je pense, notamment moi, ma spécialité sur le salafisme au Yémen, j'essaie de mettre en avant justement que c'est après tout pas forcément uniquement des pratiques qui sont condamnables, négatives ou à jeter à la poubelle.
Ça, c'est chaque lecteur d'ailleurs qui se fera son chemin là-dedans. Mais effectivement, alors l'entrée par les loisirs, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur justement cette notion de loisirs ? Qu'est-ce que ça veut dire les loisirs ? Je pense que vous aviez une définition assez large, pas uniquement, aller au parc d'attractions ou des choses comme ça.
Alors oui, on a adopté assez volontairement une définition large des loisirs de façon réactive, je dirais, parce que on n'est pas les premiers, loin de là, à écrire sur les jeunes dans ce qu'on appelle la rive sud de la Méditerranée. Mais on constatait que la plupart des travaux s'intéressaient avant tout aux conditions socio-économiques, et notamment à la question de l'employabilité, c'est-à-dire y a une inadéquation visiblement qui existe entre les formations et puis ce que le marché de l'emploi offre grosso modo, et que ça c'était l'entrée dominante, ou de dire il y a énormément de chômage, pourquoi, comment ça se passe, comment ces jeunes-là vivent cette phase de chômage. Et puis de l'autre côté, il y avait tout un travail sur les jeunes militants. Et d'entrer par le loisir nous permettait de trouver une approche à la fois plus ludique et sans doute plus abordable, moins austère, avec des chiffres, etc. Et aussi qui charrie un certain nombre d'images assez fortes. Et donc le loisir, on l'a défini effectivement en opposition à ces deux approches qui sont dominantes. L'approche par l'emploi, le loisir, c'est effectivement pas le temps du travail, c'est pas le temps à l'école stricto sensu, celui où on est en apprentissage, et puis c'est pas le temps non plus qui est prioritairement consacré à l'idée de changer la société ou de changer le monde. Donc c'est pas l'engagement. Donc avec cette définition très large, on arrive à s'intéresser à des pratiques qui sont effectivement très très diverses. Il y a une pratique qui peut démarrer comme du loisir, qui va être par exemple de faire de la musique, mais rapidement on se retrouve un petit peu en tension. Si on a du succès, ça devient aussi un emploi. Et puis par ailleurs, on a, est-ce qu'on va définir comme loisir l'activité, si on peut appeler ça une activité, de quelqu'un qui cherche à tuer le temps, qui va être ce qu'on qualifie de hittiste, c'est-à-dire les jeunes qui littéralement tiennent les murs en dialecte algérien, et donc qui d'une certaine manière cherche à tuer le temps en n'ayant aucune activité particulière, ou du moins aucune activité qu'on qualifierait intuitivement de constructive, c'est-à-dire que visiblement il n'y a rien qui se passe.
Alors, puisqu'on est dans les définitions, depuis tout à l'heure tu parles de jeunesse, mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous avez considéré ? Parce que jeune, ça peut être des enfants, ça peut être des gens de 40 ans, c'est qui les jeunes ?
Alors cette définition de jeunesse a été un enjeu assez important de discussion entre nous. Il est entendu qu'on a considéré qu'on ne pouvait pas s'intéresser uniquement à une définition biologique ou objective. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire la jeunesse, c'est entre 15 et 35 ans. Ou entre 15 et 25 ans. Ce qu'on a pu constater, c'est que la jeunesse constituait une forme de sas vers un avenir qu'on va espérer meilleur, qu'on va espérer pouvoir construire dans cette phase de jeunesse, et ouvert à un avenir qu'on peut craindre parce qu'on se dit « Ah, le temps de l'adulte, c'est celui des responsabilités, c'est celui de la stabilité, c'est celui du travail un petit peu plan-plan. » Et donc, on considérait que la phase de jeunesse dans la région, encore, enfin, de façon globale, hein, il est entendu qu'à chaque fois, on va trouver des contre-exemples, des nuances, etc. Et c'est un petit peu notre travail en tant que co-directeur avec Myriam, d'essayer de tirer un petit peu les fils ou les tendances principales. Et donc, partout dans la région, on constate que, d'une certaine manière, la catégorie de jeunesse est plastique ou élastique et qu'elle a tendance à s'étendre. Elle s'étend du fait des conditions socio-économiques qui sont assez généralement difficiles, y compris parce que, même quand elles sont bonnes, la période d'apprentissage à l'université, etc., a tendance à s'étendre, ce qui est plutôt positif. Et parce que, partout, pour des raisons assez différentes, l'âge du mariage a tendance à reculer. Et puis, on a un certain nombre de faits qui avaient tendance à marquer l'entrée dans l'âge adulte, le premier emploi, bien évidemment, a tendance à être de plus en plus difficile à tenir. Le mariage recule. Et puis, on a aussi, par exemple, la conscription militaire qui disparaît dans beaucoup de pays, pas tous, bien évidemment, mais dans beaucoup de pays, elle disparaît. Donc, la position de l'entrée dans l'âge adulte a tendance à s'étirer. Donc, on a une définition assez globale en considérant que le moment de la jeunesse est un moment qui est de plus en plus étendu, mais est marqué par une forme d'incertitude et une volonté de construire quelque chose de différent.
Et pour faire ce portrait croisé de la jeunesse arabe, vous avez fait appel à de nombreux auteurs, mais des auteurs qui sont relativement jeunes, j'ai l'impression.
Oui, c'était un parti pris. Bon, c'est un parti pris que rétrospectivement, on considère comme choisi. Bon, dans les faits, il s'est aussi un petit peu imposé à nous parce qu'on avait la volonté de trouver des auteurs qui étaient avant tout inscrits dans le terrain sur lequel ils travaillaient, et puis parce que c'est malgré tout des thématiques qui sont assez novatrices, de travailler spécifiquement sur ces loisirs-là. Alors on a eu aussi l'idée de pas forcément amener les auteurs sur les terrains, enfin sur les objets sur lesquels ils travaillent de façon prioritaire. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait décider de travailler sur une pratique de loisir sans être directement le spécialiste international, etc. On en discutait ensemble, on leur disait mais par exemple, vous, qu'est-ce que vous avez vu au cours des 2-3 années que vous avez passé sur le terrain, au Maroc, en Algérie, etc. Quand on vous parle de loisirs, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Et puis, bon, donc on a eu des choses qui étaient assez originales. Je pense qu'on y viendra de façon plus spécifique sur un certain nombre de loisirs. Mais c'est ça qui, nous a permis de passer finalement de bons moments aussi en faisant ce travail. Je pense que l'aspect ludique est important. Le registre d'écriture aussi est un registre qui n'est pas nécessairement le registre dominant des chercheurs. Et puis, bon, on n'a pas fait appel qu'à des chercheurs. Il y a aussi une photographe, par exemple, qui apporte un regard et une expérience qui sont rafraîchissants aussi pour nous tous.
Et puis, il y a des auteurs des deux côtés de la Méditerranée et du monde arabe autant que du monde francophone.
Oui, ça, c'était aussi quelque chose, bon, là, pour le coup, qu'on a cherché à mettre en avant. Notamment parce que en travaillant avec des jeunes auteurs qui, d'une certaine manière, étaient confrontés ou concernés au premier niveau, parce qu'eux-mêmes, ils pratiquaient ces loisirs-là, ou parce qu'ils les avaient pratiqués. Je pense qu'on avait quelque chose qui permettait d'être plus novateur et puis de plus rafraîchissant aussi par rapport à ce qu'on lit habituellement.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et ce soir nous sommes avec Laurent Bonnefoy pour parler de jeunesse arabe du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique, et c'est un bouquin qui est publié aux éditions La Découverte.
Hey. c'est tant mieux. Changera pas le monde, mais aura peut-être moins de malheureux. Si chacun donnait un peu, si chacun faisait tant mieux. Changera pas le monde, mais aura peut-être moins de malheureux. J'appelle à la puissance des cieux. Aye, well.
شريكي الدنيا كيف راهي تمشي كل واحد واش كتب له ربي باش يسوفلي عندك ما تشوف تزيد تشوف قد ما تشوف شوف مازال ما شت والو يا شريكي حلو دنيك مليح الوقت ولا قبيح يجوز كي الريح فونس كل ساعة كل نهار كل ما احنا تجوز عليها ماركيا في زلي فوق وخليها راه غير بالعقل قارنا باساجية كيما جينا كيما نروحو دير الخير ونساه في كبرة تنقع ما يدوم والو لا مال لا ماتريال من غير ربي
كيما جينا كيما نروحو Si chacun donnait un peu, si chacun faisait son mieux Changera pas le monde mais aura peut-être moins de malheureux Si chacun donnait un peu, si chacun faisait son mieux Changera pas le monde mais aura peut-être moins de malheureux
Dès qu'il y a le cas à roue Dès qu'il y a le cas à roue Dès qu'il y a le cas à roue لازم تنوض لازم تفيق انت مملية ما تروم يجوزو عليك جور حبا والعباد والبروبلام والمشاكل وانت البا الوقت ولا ما يسمح الناش ناس ولا تقاتل على جل حط على جل المال قداو على ليام قداو على الامان دخلوا في قلوبهم الحق دولة وعديان يا زمان خضار يلي كنت كسرني مدراعي هبط من كان سلطان وطلعت من كان راعي كيفاش ندير ما بقاش الامان الوصاية راهي مني ليك حل عينيك خمم كسر راسك لازم تفيق نوض روحك فيق روحك من هاد المنام
Si chacun donnait un peu, si chacun faisait son mieux Changera pas le monde mais aura peut-être moins de malheureux Si chacun donnait un peu, si chacun faisait son mieux Changera pas le monde mais aura peut-être moins de malheureux J'appelle à la puissance des cieux Aye, well.
لازم اليد في اليد لازم تعاونو كيما اليوم راك غاية غدوة تقدر تكون في حصلة اللي قادر على شقايبين دراع ويخبط طابلة ملازمش تخلي كرشك فارغة دخلا مكانش بيبان قاع مكوانس يا متوليش اللورد شوية صبر تفتحها بويس كاين باش ياكل واحد علاش ما ياكلوش زوج شوية منها شوية ملهيه ما تبدلش العيشة بصح ينقصو لي راهم فيه بينا ضربة راهي في القلب القلب درش يزيد يحمل الحالة راهو فيها علاش بلوس ما عندكش بلوس خلصها غالية ان شاء الله ما تكون غير شتا وفايتة على بالي بلي تنظر كي تشوف الاخرين لحقو انت مازال واش عليه لازم تفوت على الطريق لازم تصبر تروح بالعقل حتى وين تلحق ان شاء الله كيما اليوم تلحق تلحق
Changera pas le monde mais aura peut-être moins de malheureux Si chacun donnait un peu, si chacun faisait son mieux Changera pas le monde mais... Watch out, hey! Et si chacun donnait un peu, si chacun faisait son mieux Changera pas le monde mais aura peut-être moins de malheureux Si chacun donnait un peu, si chacun faisait son mieux
Voilà, c'était Intik dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel. On est toujours en compagnie de Laurent Bonnefoy pour nous parler du livre Jeunesses arabes.
Oui, jeunesse arabe du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique, puisque c'est arabe, on va dire, au sens géographique et oui, assez large, puisqu'on ne parle pas que du Maghreb, mais évidemment de la péninsule arabique. Et puis, on parle des jeunes, mais pas que d'un point de vue militant, ni que d'un point de vue sociologique, d'un point de vue, on va dire, lutte des classes et chômeurs. On va parler aussi des loisirs. Alors, les loisirs, c'est assez étonnant parce que dans ce bouquin, on découvre toutes sortes de loisirs, puisqu'il y a vraiment un nombre d'articles très différents. Alors tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait des articles, des loisirs qui étaient bien vus et d'autres un peu plus mal vus, on va dire, en tout cas d'un point de vue occidental. Par exemple, en Arabie Saoudite, je crois, c'est ça, il y a ceux qui font du rodéo en course de voiture. Donc ça, c'est quand même assez étonnant aussi de voir des plaisirs totalement différents de ce qu'on peut imaginer, en tout cas nous, des jeunesses arabes.
Oui, alors c'est le travail d'un collègue qui travaille, lui, depuis bien 10 ans sur le phénomène du tafhit, qui est la pratique du rodéo, donc de faire des courses automobiles dans la ville. Lui, il interprète de façon tout à fait intéressante en soulignant bien combien cette pratique-là émergente, de faire des courses donc avec des voitures, des figures sur les grandes avenues souvent récemment créées de la ville, témoigne de l'étalement urbain, d'une forme de perdition de ces jeunes, des jeunes hommes, il faut bien le souligner, dans une société qui est en pleine reconstruction, pleine reconfiguration. Et donc l'idée d'entrer par le loisir, c'est de s'intéresser à tout un tas de dynamiques qui vont au-delà de la simple pratique du temps libre, mais qui vont révéler ou dévoiler tout un tas de problèmes, de dynamiques, de processus. En tant que sociologue, politiste, anthropologue ou autre, on a tendance, enfin, qui vont venir nous intéresser en premier chef.
Alors toi, par exemple, tout à l'heure, tu nous racontais que tu travaillais sur le Yémen, en particulier dans les universités où tu as travaillé sur les mouvements salafistes. Quels sont les loisirs révélateurs de ces mouvements-là?
Alors les jeunes salafis, moi ce qui m'a intéressé, c'était d'appréhender leur pratique avant tout comme une forme de mode, comme une sous-culture qui émergeait dans un contexte assez particulier pour des raisons qu'on peut détailler en s'intéressant à la structure sociale du Yémen, à l'histoire du Yémen, etc. Et qui viennent signaler des rapports entre les générations assez particuliers. Et donc on a l'émergence dans un cadre universitaire de jeunes qui vont avoir ou se singulariser par leur opinion politique, par leur lecture des textes religieux par rapport aux autres, mais aussi par leurs vêtements, et qui vont être qualifiés ou se qualifier eux-mêmes de salafis. Alors dans l'environnement dans lequel j'ai travaillé, ils constituent à peu près un tiers de l'effectif étudiant, et ils se singularisaient, donc de façon visible, je l'ai dit, par leurs vêtements, et puis après par leurs loisirs aussi. Et on constatait par exemple qu'alors que la majorité des étudiants mâchaient du khat, qui est une plante, une feuille, qui est consommé, emmagasiné dans la bouche pendant de longues heures par la majorité de la population yéménite, qui est considérée comme une drogue en France et dans la plupart des pays du monde, les jeunes salafis refusaient cette pratique-là. Ils refusaient de regarder la télévision et donc à la place, eh bien, ils devaient faire un certain nombre de choses autres qui étaient particulièrement d'étudier les textes coraniques, d'étudier d'écouter des cassettes de conférences ou de prêches religieux, etc. Et donc ce qui singularisait largement cette communauté-là. Après, de façon plus fine, on constatait combien ils se singularisaient, mais dans le même temps, ils entretenaient des relations plutôt cordiales avec les autres membres. Et c'est pour ça que j'avais moi plutôt tendance à considérer que c'était une forme de mode, parce que si on étudiait sur le temps long, et j'avais pu constater ce qu'on appelle des sorties de rôle, le fait qu'un certain nombre de jeunes qui dans l'environnement de la faculté étaient considérés comme des salafis et avaient une ligne dure, et quand ils se retrouvaient dans l'environnement familial ou quand ils se trouvaient confrontés plus tard au marché de l'emploi, par exemple, ou au fait de devoir constituer une famille, eh bien, ils évoluaient largement et que leur pratique, finalement, était largement oubliée. Et puis, ce qui me semblait important aussi, par rapport à cette mode, c'était de bien distinguer ce qui relevait de la production idéologique, on va dire, ce qu'on trouvait dans les cassettes de prêche, ce qu'on trouvait dans les livres des grands chers, et les pratiques qui étaient mises en œuvre. Et ce décalage-là, on le trouve également avec un certain nombre de modes ou de sous-cultures qu'on connaît dans les pays européens. Je pense par exemple à la mode gothique, des choses comme ça, qui sont finalement assez similaires. Alors on ne veut pas forcément le voir parce qu'il y a un certain nombre de salafis qui ont une implication politique et jouent un rôle et sont parfois engagés dans la violence. Mais malgré tout, il y a des points de similitude qui, moi, me semblaient et me semblent encore assez pertinents et qui permettent de casser aussi un cliché et permettent de dépasser des logiques de criminalisation qui, à mon sens, sont souvent contre-productives.
Et dans le même chapitre, d'ailleurs, sur les loisirs, et comme là on est en train de parler de mode, il y a aussi un article d'Amélie Le Renard, par exemple, sur la mode des émos, comme il y a à Paris, hein, on les retrouve au Halles.
Ah, émo, pour ceux qui ne savent pas, c'est...
Émotionnel.
Voilà, il faut quand même... On n'est pas tous encore des jeunes d'aujourd'hui.
Ah, mais c'est comme les petites... Il y a des petites poupées comme ça, gothiques, qui sont des petites émos. Et ça existe aussi en Arabie Saoudite. Et là, comme ça, en France, on trouve ça normal. Et en même temps, on n'a pas forcément l'idée qu'il puisse avoir ce genre de mode dans ces pays-là.
Oui, c'est quelque chose sur lequel Amélie Le Renard, qui travaille sur les questions de genre en Arabie Saoudite, a travaillé, et qui, en effet, vient, là encore, briser l'image d'une société saoudienne ultra conservatrice. Et en fait, elle s'intéresse à un phénomène qui a été, dont on a pas mal discuté dans les médias arabes, qui est celui des bouyats, qui est un néologisme en arabe qui est formé du terme anglais boy, et donc c'est des garçons manqués, on pourrait dire, qui, dans un contexte très particulier, l'université de Riyad, mais aussi ailleurs, mais donc cette université fonctionne selon un principe de ségrégation entre les hommes et les femmes. Et donc, dans cet environnement-là, les étudiantes, qui sont entre étudiantes de façon exclusive, vont choisir de s'habiller comme des garçons et d'essayer de comprendre, c'est ce que fait Amélie, les implications. Aussi, elle pose des questions sur le rapport à la sexualité et constate que, oui, il n'y a pas forcément une adéquation directe entre cette pratique-là de se grimer en garçon, je dirais, la sexualité que vont développer ces jeunes femmes, ou leur identité aussi de genre.
Oui, il y a vraiment un côté, c'est aussi une mode là-bas, d'une certaine façon, et les jeunes suivent cette mode-là, et c'est pas du tout... On a tendance à surinterpréter ce genre de choses, parfois.
Oui, voilà, et je pense que c'est important d'avoir une forme de recul et de nuancer aussi un certain nombre de pratiques, et de pas les surinterpréter, parce que voilà, la période de la jeunesse, comme on a pu le dire au début, c'est aussi une période au cours de laquelle on se façonne. Et donc les choses, elles ne sont pas du tout figées. Et on est d'une certaine manière aussi perméable à un certain nombre d'influences, de modes. Et il est important, je pense, de ne pas les surinterpréter systématiquement.
Alors, il y a un truc assez rigolo aussi, je crois que c'est un article que tu as écrit d'ailleurs, c'est sur les supporters à distance, c'est-à-dire les jeunes palestiniens qui supportent des équipes européennes, finalement, puisqu'ils supportent des supporters de foot, hein, que ce soit les fans du Barça ou du Real. c'est de quelle façon ils s'investissent dans ce...
Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est un collègue de l'université de Bir Zeit en Palestine, qui s'appelle Abaher Sarka, qui, lui, s'est intéressé, en effet, à un phénomène qui est très visible quand on va en Palestine, mais aussi dans beaucoup de pays, qui est celui de constater que les rues, d'une certaine manière, se vident ou se remplissent au moment où on a ce qu'on appelle le classico, qui est l'opposition entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et donc on a tout un engagement des jeunes, de façon individuelle ou en groupe, etc., autour de ces équipes. Et on constate également que même si le FC Barcelone, ces dernières années, du fait de son succès, etc., est largement dominant, mais que cette opposition entre deux équipes lointaines, hein, elle concerne dans les faits assez peu les Palestiniens, mais on constate que cet engagement recoupe des enjeux qui sont différents et aussi politisés. On avait eu, et c'est quelque chose que décrit Abaher, une opposition où on essayait de donner une signification politique au fait qu'on soutenait Barcelone plutôt que le Real Madrid. On essayait également de montrer comment cette opposition entre deux clubs en Espagne, elle était révélatrice aussi des oppositions qui traversent la société palestinienne, notamment dans son rapport avec Israël.
C'est-à-dire que finalement, les fans du Barça étaient, on va dire, plus libéraux ou plus...
Non, en fait, l'opposition, elle était principalement avec l'idée que, en effet, le Barça était, du fait de la position de Barcelone en Espagne, moins conformiste, par exemple, que le Real Madrid. Il soutenait moins la monarchie que le Real Madrid. Et puis, ça s'est inversé à un certain moment autour d'une controverse où il y avait eu un certain nombre d'Israéliens qui avaient soi-disant été invités à un match par Barcelone. Et donc, à ce moment-là, il y avait eu...
En fait, c'était même Gilad Shalit.
Oui,
en fait.
C'était, voilà. C'était Gilad Shalit, oui. Ouais. Oui. C'était pour ne pas donner trop...
Ah, pardon.
Voilà, enfin, c'était Gilad Shalit, donc l'ancien otage ou détenu, on peut le qualifier de façon différente, qui avait passé de nombreuses années emprisonné à Gaza par le Hamas, qui était un soldat israélien, et qui avait été invité, et ça avait... par à la tribune d'honneur par le FC Barcelone, et ça avait généré toute une controverse. Est-ce qu'on doit les boycotter ou pas, enfin, etc. Et donc on donne une signification politique à un engagement qui a priori, quand on le regarde, ne devrait pas en avoir. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est, encore une fois, les loisirs permettent de découvrir tout un monde, toute une complexité, tout un tas de dynamiques qui révèlent l'état de sociétés qui sont en plein bouleversement.
Bah justement, en fait, tous ces loisirs, c'est aussi, d'une certaine façon, un moyen de... se mettre en perspective dans l'avenir et de s'investir, d'une certaine façon, aussi politiquement. D'une façon ou d'une autre.
Oui, alors c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a, dans beaucoup de cas, une forme de tension qui existe entre le loisir et puis, certes, l'engagement, mais aussi la carrière professionnelle. Alors quand on parle des artistes, des artistes plasticiens et puis des artistes musiciens, par exemple, ou du cinéma, ou d'un phénomène de la comédie stand-up qui se développe pas mal en Arabie Saoudite, on a là cette véritable tension entre un loisir qui peut déboucher soit sur une carrière, professionnelle, ou bien une carrière plus militante. Et c'est ce basculement-là, cette tension qui nous a pas mal intéressés, a intéressé nombreux auteurs.
Et on voit d'ailleurs dans cet ouvrage que l'art ou que les activités artistiques ont un grand rôle, que ce soit le théâtre, l'humour, la musique. C'est vraiment un spectre important. pour ces...
Oui, alors cette question de la création ou de l'art permet aussi d'aborder, moi, ce qui me semble être une des problématiques importantes de cette question du loisir, qui est celui de l'institutionnalisation ou de l'encadrement de l'art. Si on regarde historiquement tous les travaux sur les loisirs, on constate que le loisir, il permet de s'émanciper, c'est quelque chose de fondamental, mais il permet aussi de contrôler les États ou les églises au sens large, hein, ça, donc toutes les institutions religieuses ont eu tendance à s'engager aussi pour encadrer le loisir, parce que selon leur logique, le loisir avait besoin d'être encadré, parce que sinon il menaçait de mener vers un engagement, une contestation, etc. Et donc là, quand on regarde, encore une fois, de façon globale, hein, le monde arabe, il y a des nuances très fortes, il y a des cultures institutionnelles ou d'institutionnalisation du loisir qui sont très différentes d'un pays à l'autre, mais si on regarde de façon assez globale, on constate que le loisir dans le monde arabe, ou les loisirs dans le monde arabe, sont moins institutionnalisés qu'ailleurs dans le monde ou qu'en Europe, si on veut se focaliser sur le continent européen. Et donc cette faible institutionnalisation a un certain nombre d'implications. Elle implique notamment qu'un certain nombre de loisirs, on doit se débrouiller d'une certaine manière tout seul. On doit sinon profiter ou faire appel à des institutions étrangères. Les lycées étrangers peuvent être par exemple un facteur important de structuration du loisir. Et puis on doit trouver des pis-allers qui peuvent être par exemple le café. Alors le café, le bar joue un grand rôle dans cette institutionnalisation du loisir ou dans l'organisation. Et donc l'État n'est jamais totalement absent, mais je dirais que il est sans doute moins présent. Et les institutions religieuses, la mosquée, du fait de variables qu'on peut parfaitement expliquer et pointer du doigt, qui sont liées notamment à l'absence de hiérarchie religieuse comme dans l'Église catholique, dans l'univers sunnite qui est dominant dans le monde arabe, ça ne génère pas une institutionnalisation aussi forte que l'Église qui s'occupait des scouts, etc. Et quand on a une fragmentation importante avec une mosquée qui s'occupe de son quartier mais qui n'a pas forcément les ressources pour organiser et centraliser aussi bien, il y a une institutionnalisation moins forte. Et y compris dans des pays, des régimes qui étaient des régimes autoritaires où il y a eu assez peu d'engagement de la part des États en faveur des loisirs.
كلاب فيديو بونس انا من بعيد رحنا عايشين بالميديو عايشة علاش الماضي شدرت انت البيوم عايشة وفضل من بعيد رحنا عايشين بالميديو عايشة علاش الخضرة دينا الكليب فيديو عايشة نسيت يدي وضربت بضربة زمان خريف شمل روح مريح وريح ما تويح غير المألم والمضرور غادي مقدم مينين ويقولي يا قلبينين ودموعها بقانا يا ما زهرة تسقيها تعطيك نور تنساها 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 تعطيك المرار قلبي مرتخ ما موليت مجدوب نجول بلاد وبلدان ونقول عشت حياتي في باب مسدود بين اللي بوابك يا غفر لا تخفيها في قردي وانت المقصود يا المقصود بين اللي بوابك يا غفر لا تخفيها في قردي وانت المقصود ولين تروح روحي يا من بانيها انت العالم بحالي من قد ولين تروح روحي يا من بانيها وانت العالم بحالي من قد علاش الماضي شدرت انترفيو قديشة ونسى انا من بعيد رحنا عايشين بالميديو قديشة علاش الخضرة دينا كليب فيديو قديشة ونسى انا من بعيد رحنا عايشين بالميديو قديشة علاش الماضي شدرت انترفيو قديشة ونسى انا من بعيد رحنا عايشين بالميديو قديشة علاش الماضي شدير انترفيو قديشة ولا بولا 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 بولا
Et vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est les voilà, c'est nous tous toujours. Et on vient d'entendre Barry, le Marocain Barry.
Et oui, et ce soir nous sommes avec Laurent Bonnefoy puisque nous parlons des jeunesses arabes du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique. Et c'est aux éditions La Découverte.
Alors, il y a une autre ligne de force qui se dégage de ce livre, enfin une autre question qui est traitée à différents égards, voilà, en fonction des auteurs et des sujets. C'est la tension, qui est aussi très classique, la tension entre tradition et modernité. Que font les jeunes de la tradition? Est-ce qu'ils la réinvestissent? Est-ce qu'ils la réinventent? Est-ce qu'ils la laissent tomber? Est-ce qu'ils se fondent dans la modernité? Enfin voilà, là aussi, l'échiquier, enfin le tableau est à géométrie variable.
Oui, alors c'est cette question du rapport au temps, d'une certaine manière, elle découle du fait de s'intéresser aux loisirs, bien évidemment, puisque les loisirs, c'est avant tout le temps libre. Elle est également doublée par ce rapport au temps long, je dirais, qui est celui entre modernité, tradition. Et effectivement, cette question-là structure un grand nombre de papiers, dans le sens où, pour nous, enfin le public qui va lire cet ouvrage, il va chercher à singulariser les jeunesses arabes par rapport à sa propre expérience. Donc se dire en quoi est-ce qu'elles sont singulières par rapport à un jeune qui est à Paris, par exemple. Mais il va également, et c'était un petit peu notre objectif, c'était de se dire en quoi ces jeunesses sont différentes des jeunesses qui les ont précédées. En quoi ces jeunesses arabes sont différentes des jeunesses arabes qui les ont précédées? En quoi est-ce que il y a des nouvelles figures qui ont émergé? Alors la première partie de l'ouvrage, qui rassemble 10 contributions, elle s'intéresse à 10 figures. Alors parmi ces 10 figures-là, il est assez difficile de dire elles s'inscrivent davantage dans la modernité ou davantage dans la tradition, parce que justement, ces figures-là sont des figures actuelles, mais elles s'inscrivent bien dans une temporalité, dans un rapport qui est fait de réinvention, qui est fait aussi d'importation. Hein. Il y a un certain nombre de pratiques qu'on va considérer comme influencées fortement par des technologies qu'on va qualifier avant tout d'occidentales. Je pense par exemple à Internet, puisque elle s'est imposée depuis depuis assez peu de temps, mais à chaque fois, c'est réinventé. Et puis, dans le même temps, il y a des loisirs qui se fondent sur une forme de nostalgie du passé. Alors, on a un papier qui est tout à fait intéressant de Nicolas Dot-Pouillard, qui s'intéresse au café, ou plutôt, on devrait dire, au bar de la gauche libanaise,
à Beyrouth.
À Beyrouth. Et où on a toute une rue, un quartier qui était fameux, très dynamique dans les années 70, au temps de la splendeur de la gauche arabe, et qui progressivement s'est délité, mais qui, d'une certaine manière, a encore une forme de prestige auprès d'une jeunesse de gauche qui est maintenant ultra minoritaire, il faut le reconnaître, mais qui vit dans un rapport nostalgique. Alors, et malgré tout, il y a une réinvention parce que les problématiques, elles sont différentes. Le contexte palestinien a évolué. Il y a eu l'émergence du conflit syrien ces dernières années qui est venu un petit peu chambouler aussi le rapport que les uns et les autres ont à leur engagement. Et donc, on est aussi dans une dynamique. Alors, leur pratique, elle se fonde sur une nostalgie, sur une pratique qu'on ne va pas considérer comme particulièrement moderne, hein, d'aller boire dans des bars, ça se fait.
C'est pas très YouTube et c'est pas très Facebook.
Depuis très longtemps, voilà. Mais malgré tout, c'est traversé par des dynamiques très actuelles, on pourrait dire.
Ben justement, c'est aussi le cas, par exemple, un autre cas, mais cette fois-ci, on prend appui sur des choses qui paraissent traditionnelles, enfin, qui sont à la base traditionnelles, comme je pense au club de Debke en Palestine, où, alors là, la problématique, elle est propre aussi au contexte palestinien, qui est qu'effectivement, il y a une résistance culturelle de fait. Donc, du coup, on va certainement aller puiser dans la tradition pour exercer cette résistance. Enfin, il y a un papier là-dessus sur. Oui.
Alors c'est un papier d'un doctorant qui s'appelle Xavier Guignard, qui lui travaille pas du tout sur ces problématiques-là. Et là, typiquement, on en a discuté ensemble. Et en fait, le point de départ de son travail, donc la Dabke, c'est une danse traditionnelle levantine, hein, qui concerne le Proche-Orient en général, mais qui a été d'une certaine manière réinventée. Et qui est devenu, à la faveur de la lutte nationale palestinienne, une forme de marqueur très fort de l'identité palestinienne. Et il se trouve, et c'est quelque chose que Xavier Guignard souligne, qu'un certain nombre de pas qui sont considérés comme étant des pas traditionnels de la Dabke, en fait, ont été largement influencés par les ballets russes, tout simplement parce que un certain nombre de figures, de grands danseurs ont été formés en Russie à un moment. Et puis, donc lui, le point de départ de son travail, c'était de constater qu'il y avait un certain nombre de Palestiniens qu'on appelle des returnees, c'est souvent des Palestiniens qui sont nés à l'étranger et qui, à la faveur de la situation, tentent de revenir en Palestine parce que c'est souvent bien difficile et que les Israéliens refusent de les voir revenir. Donc eux vont d'une certaine manière surjouer l'engagement dans l'identité palestinienne et aller s'encanailler d'une certaine manière dans des clubs de danse de Dabke, dans des lieux qu'ils ne fréquentent généralement pas et qui vont être les camps de réfugiés. Et donc on a tout ce rapport-là à l'identité palestinienne qui est d'une certaine manière reconstruite à travers ce qu'on va percevoir comme étant la tradition, mais qui en fait est une tradition complètement réinventée.
Et puis il y a tout un mouvement aussi quand même de revendication dans ces loisirs, que ce soit par le street art, par les comiques dont tu parlais, le stand-up dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est aussi une façon de prendre la parole pour ces jeunes, les loisirs.
Oui, tout à fait. Alors on a un cas qui est à la frontière du monde arabe, qui est au Sahara occidental. Avec un phénomène qui est traité par une des auteurs, qui est celui des tentes, d'une certaine manière, sahraouis, qui sont investies pendant les étés par des jeunes qui viennent de milieux plutôt urbains et qui tentent de réinvestir, le temps de l'été, un marqueur identitaire fort de l'identité sahraoui. Il faut savoir que le Sahara occidental est comment considéré comme occupé par une certaine proportion de la population, occupé par le Maroc. Et donc, pour eux, le fait de se réinvestir dans ces tentes-là, des tentes qui sont installées sur les plages le temps de l'été, où on va camper, on va faire ce qu'on appelle la cérémonie du thé, est un moyen aussi de résister et de s'engager. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que donc sur l'étude qui est présente dans l'ouvrage, sur plusieurs années, on voit que ce phénomène-là, en apparence totalement anodin, hein, d'aller passer ses week-ends sous des tentes à la plage, a été réprimé par le pouvoir marocain qui occupe le Sahara occidental du point de vue des Sahraouis. Dans cette pratique anodine un engagement fort qui est un engagement identitaire. Et donc, à travers le loisir, il y a en effet tout cet engagement qui se retrouve dans des pratiques aussi de plus volontiers créatives qui vont être une œuvre d'art, un groupe de musique, etc., qui témoignent bien de cette vitalité, de cet engagement. Alors, l'intérêt aussi, et je pense que c'est quelque chose qu'on perçoit aussi dans nos sociétés, c'est que finalement, face à la crise de ce qu'on peut appeler l'engagement politique, l'engagement à travers les partis, on constate que dans le monde arabe aussi, l'engagement passe par des canaux différents de ceux des partis.
Et oui, c'est différent. Et en même temps, c'est un peu comme en France, d'ailleurs. Il y a une utilisation de tout ce qui est technologie, il y a une utilisation de tout ce qui est Facebook et compagnie. Donc c'est à la fois hors parti et à la fois, ça a un côté, les indignés. Il y a un espèce de mélange des genres dans ces activités, dans ces revendications.
Oui, oui, oui. Elle passe par des canaux qui... sont à l'image, enfin je veux dire qu'ils sont assez fragmentés, qui sont également sans doute opposés à l'émergence d'un leader. Et je pense que ça a eu une implication assez forte dans le devenir de ce qu'on a appelé les printemps arabes, où malheureusement ou heureusement, c'est à chacun de voir et c'est l'histoire d'une certaine manière qui jugera, mais il n'y a pas eu d'émergence de leader très fort, et cette fragmentation, elle se retrouve aussi, elle se comprend par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la faiblesse de l'institutionnalisation. À partir du moment où on a des partis qui sont discrédités, à partir du moment où on n'a pas de structure associative forte, de syndicats forts, on est dans une situation où on a affaire peut-être plus à une révolte, à un processus révolutionnaire, mais qui n'aboutit pas encore réellement à des changements forts. Et à cet égard, je veux dire, si on a une démarche un petit peu comparative et on essaie de voir comment les destins révolutionnaires des différents pays ont évolué, on constate que le pays où c'était finalement le plus structuré, la Tunisie, parce que notamment on avait l'UGTT, qui est le syndicat tunisien, on a malgré tout eu un processus qui a pu aboutir ou déboucher sur un processus transitionnel qui malgré tout avance, alors que dans d'autres pays où c'est sans doute plus fragmenté, on est aujourd'hui dans une situation d'incertitude, ou voire dans une situation contre-révolutionnaire très forte. C'est le cas en Égypte, bien évidemment.
Et les relations entre tous ces jeunes, parce qu'on a une espèce de portrait croisé qui est très disparate finalement. Est-ce que finalement tous ces groupes se rencontrent puisqu'ils font partie d'un même monde, le monde arabe? On a entendu parler pendant des mois de cette révolution arabe, de ces printemps arabes. Est-ce que cette notion de génération existe finalement, ou c'est un peu une illusion?
Alors c'est une forme d'illusion, hein, que de penser qu'il y aurait une jeunesse qui parviendrait finalement à communiquer, etc. Alors il y a un certain nombre de réalités, de pratiques qui sont communes. Facebook est très développé. Alors moi, quand j'en parle, on me dit « Ah, mais il y a des nouvelles choses qui émergent chez les plus jeunes, etc. » Notamment WhatsApp ou Twitter est beaucoup plus présent. Sans doute, mais malgré tout, il y a une pratique de Facebook qui est très très commune avec un certain nombre d'usages qui ne sont pas encore nécessairement développés chez nous, avec par exemple des intellectuels qui ont totalement abandonné d'autres moyens de communication, qui plutôt que de publier dans un journal décident d'écrire directement sur Facebook, et avec ça ils touchent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils n'ont pas par exemple des pratiques de blog qui de façon aussi développée que par exemple en Europe, mais cette existence d'outils de communication, de pratiques communes, ne fait pas émerger une génération, tout simplement parce que il y a malgré tout des intérêts, des idéologies, des doctrines, des pratiques qui sont excessivement différentes. Et puis, par ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté. Je ne suis absolument pas un spécialiste du Maghreb, je ne prétends pas l'être, mais jusqu'au titre, simplement, le qualificatif d'arabe posait un grand problème, particulièrement aux Marocains, ce que je peux comprendre. Parce que tout simplement il y a l'idée que l'identité arabe pour beaucoup, une large proportion des Marocains, n'est pas l'identité primordiale, qu'il y a des identités notamment berbères qui sont beaucoup plus fortes, et la perception que finalement l'identité arabe est quelque chose qui est imposé par l'État, etc. Donc là, je veux dire, le titre... Je veux bien reconnaître cette faille-là, mais d'une certaine manière, bon, bah, c'est un titre, il faut qu'il soit aussi vendeur, qu'on puisse s'identifier. Et malgré tout, on a cette existence d'une langue qui a, avec des nuances très très fortes, hein. Moi, je ne comprends rien au marocain, par exemple, au dialecte marocain, mais dans le même temps, les médias utilisent une certaine langue. Il y a un certain nombre de références qui sont communes, et puis il y a aussi une perception d'ancêtres qui sont partagés, etc., qui fondent malgré tout une unité imparfaite, mais qui existe malgré tout au sein de cet espace.
En fait, il faut penser unité plurielle, en fait. Si on résume, à la fois les jeunesses au pluriel, mais les mondes arabes aussi, d'une certaine manière, parce que, voilà, entre le Golfe et le nord de l'Afrique, on n'est quand même pas tout à fait dans les mêmes... dans les mêmes mots.
Oui, mais après, il y a un certain nombre de références qui vont être des références historiques, des références religieuses aussi, des références en termes de langue, qui malgré tout jouent. Et par exemple, de savoir, bon, moi je connais surtout le Yémen, de savoir que, y compris jusqu'au Maroc, il y a un certain nombre de tribus qui revendiquent un lien avec des tribus yéménites, bon, bah, ça c'est quelque chose qui malgré tout est assez tangible. Et au Danemark, j'ai pas vu de groupe qui revendique un ancêtre yéménite. Donc c'est malgré tout quelque chose qui est assez concret, ou qui fonctionne dans l'imaginaire de façon assez directe.
En tout cas, merci beaucoup d'être passé ici pour nous déconstruire un peu tous les stéréotypes qu'on avait sur les jeunesses arabes. Parce qu'en fait, ce livre qui est publié aux éditions La Découverte, c'est un portrait croisé de ces jeunes, mais on est vraiment loin de l'image qu'on a d'habitude du choc des civilisations. Hein. Là, c'est des portraits croisés qui nous permettent de découvrir ces mondes arabes.
Oui, je tiens à dire quand même, c'est un livre très incarné, si on peut dire ça. C'est-à-dire que du coup, comme les auteurs sont souvent en relation... direct avec les gens dont ils parlent, voilà, on a des portraits, on a des on a des figures comme ça qui émergent. Hein, c'est pas uniquement, enfin voilà, c'est savant, mais c'est très accessible aussi, et c'est une bonne chose.
Et puis on rappelle que c'est un ouvrage collectif, et qu'il y a donc 37 auteurs et donc 37 points de vue aussi sur ces mondes arabes.
Oui, alors c'est en effet, cette amoncellement de points de vue pourrait faire peur, dans le sens où on peut se dire, bah oui, il n'y a pas de thèse qui se dégage, c'est compliqué. Mais justement, l'idée d'un ouvrage collectif, c'est aussi d'avoir cette pluralité, Et cette pluralité, justement, la thèse du livre, de bien insister, c'est quelque chose bon, qui paraît dans le titre, et on a insisté beaucoup là-dessus, sur ce pluriel, sur le fait de parler des jeunesses arabes, et donc de transmettre quelque chose qui va aller déconstruire aussi les clichés qu'on peut avoir, et qui va aller au-delà de la question de la menace, et puis au-delà aussi d'une approche uniquement... je dirais peut-être militante, tombe dans ce qu'on a appelé le jeunisme, qui voudrait dire que bah oui, les jeunesses sont finalement la solution à tout. Non, elles sont concernées par un certain nombre de dynamiques qui traversent les sociétés. Elles révèlent des tensions, des enjeux, des intérêts aussi qui sont divergents entre différents pays, entre différentes classes sociales. Et ça, je pense que c'est important de le garder à l'esprit.
Eh ben, en tout cas, c'est pas sur Fréquence Paris pluriel qu'on va être contre les histoires de pluralité du tout. Donc c'était Laurent Bonnefoy qui venait donc pour nous parler de ce livre co-dirigé avec Myriam Catus, Jeunesse arabe du Maroc au Yémen, loisirs, culture et politique, publié à La Découverte.